Ah, est-ce que le diapo va arriver? J'attends. Mais je profite pour vous dire que j'ai choisi le texte sur lequel j'allais prêcher. Et c'est justement un texte qui m'a fait beaucoup de bien par rapport aux actualités et tout ce qui s'y passe. Et j'espère être à la hauteur de pouvoir vous transmettre au mieux, au mieux ce message-là. Là. Du coup, sur le texte que j'ai choisi, on se situe dans le livre des Psaumes. Donc, c'est un livre que, si du coup vous avez écouté les prédications de Richard Jeulin, vous paraissent plutôt familiers. C'était, pour rappel, les Psaumes, des chants qui étaient traditionnellement chantés et appris par cœur par le peuple juif, dans un but de soutenir, d'encourager, mais aussi d'instruire. Et surtout, c'était une grande aide, je pense, parmi toutes les péripéties que ce peuple a subies. Et c'était un lien fort qu'ils avaient avec justement un lien fort avec les promesses d'avant. Oula, ça marche pas. Petite animation et tout. Donc voilà. Alors, du coup, je vais. Enfin, faut savoir que pendant cette déportation, le temple était détruit. Le temple qui était leur seul moyen d'avoir une relation avec Dieu. Ils ont été déportés et envahis par les Babyloniens, les Assyriens et les autres qui suivent. Donc j'imagine que vous pouvez voir un peu la peur et l'inquiétude que c'était de vivre sans relation avec le Dieu qui les a délivrés. Et c'est un peu dans ce contexte-là, qui ressemble de guerre et d'exil, que je vous propose de lire ce livre. Donc, le livre des Psaumes est écrit en cinq parties. Celui qu'on va lire ne se situe dans aucune de ces parties, parce qu'il s'agit du psaume 2. C'est un des deux psaumes d'introduction, et je vous invite à lire le psaume 1, qui parle de la loi, qui est très beau, enfin bref, j'aime beaucoup. Et il vaut vraiment le détour. Bon, du coup, pas mal de gens le savent, je dessine, et j'ai fait quelques dessins pour illustrer ce psaume. Bon, bien que ce psaume, selon moi, en tout cas quand je l'ai lu, me paraisse assez puissant pour vous remuer, j'espère que avec ces dessins, je vais pouvoir vous aider à visualiser et faire votre ce psaume. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi trament-elles tous ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction? Ils s'écrient ensemble, faisons sauter leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Mais il rit celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux et dans sa colère, il les frappe d'épouvante en tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai ce décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Demande-moi ce que tu veux, je te le donne en patrimoine. Tous les peuples de la terre et le monde entier, jusqu'à ses confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligent, vous qui gouvernez le monde, laissez-vous avertir. Dans la crainte, servez l'Éternel, et tout en tremblant, exultez de joie. Ô fils, rendez votre hommage pour éviter qu'il ne s'irrite et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux tous les hommes qui cherchent en lui refuge. Premièrement, en lisant ce psaume, déjà, il m'a fait. Je pensais un peu aux actualités, tout ça, ça m'a fait. Ça m'a fait du bien, mais en même temps un peu peur. Et l'une des questions que je me suis posée, c'est ils s'écrient ensemble. Faisons sauter tous leurs liens et jetons en loin leurs chaînes. Alors, de quels liens et de quelles chaînes parle-t-il? Les liens et les chaînes que le monde et les rois veulent se débarrasser sont ceux que Dieu leur a soumis. C'est les règles bien, les règles morales, la pression que Dieu met sur l'homme à ne pas faire le mal. Ces chaînes, liens, c'est des termes qui nous paraissent négatifs, comme une contrainte. Mais il faut voir la réalité des faits. Nous ne sommes pas libres. Nous sommes prisonniers de notre nature pécheresse qui nous pousse à faire le mal. Nous allons faire une comparaison. Alors, c'est une comparaison, il ne faut pas la pousser trop loin. Mais c'est comme si on était des humains terriblement addicts à une drogue dure. Un poison qui, dès qu'on en prend, on a encore plus envie d'en consommer. Et cela nous mène petit à petit à la mort. Heureusement, des barrières sont là pour nous empêcher d'accéder à cette drogue. Dans ce cas, est-ce que ces barrières nous emprisonnent ou elles nous délivrent? Dans Galates, Paul dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que nous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Dieu contraint nos chairs pour éviter qu'elles nous détruisent, mais l'humanité ne veut pas de ces liens-là. L'humanité veut s'en débarrasser, signe qu'il pense savoir mieux que Dieu ce qui est bon pour lui. Faisons sauter tous leurs liens, jetons en loin leurs chaînes, s'exclame-t-il. Alors, les nations se sont rebellées, construisant un monde plein d'injustice et de mépris envers son Créateur. Ce n'est pas pour rien que le texte appuie sur les dirigeants et les grands de ce monde. D'une part, car ce sont eux qui sont à la tête des nations, mais aussi que forcément, un pécheur avec beaucoup de pouvoir, ça fait plus de mal qu'un pécheur sans pouvoir. Et l'actualité regorge vraiment de conflits, d'échecs répétés pour les nations. Les dirigeants ne respectent pas leur engagement, en preuve tous les détournements d'argent et les fraudes en tout genre. Ils ne respectent pas la planète, en preuve le réchauffement climatique, la pollution des sols, la pollution des océans. Ils ne respectent pas les autres nations, la preuve tous ces nombreux conflits. Et ils ne respectent pas la vie humaine, en preuve tous ces civils innocents tués dans ces conflits. Ils ne respectent rien hormis eux-mêmes. Bien sûr, peut y avoir des exceptions, des pires, des moins pires, je ne veux pas faire de politique. Mais une tendance très nette à la rébellion contre Dieu, contre les lois que Dieu a établies. L'homme veut se défaire de tout ça, choisir par lui-même ce qui est bon ou non. Si jamais Dieu n'interviendrait pas pour les contraindre un petit peu, ce serait aussitôt une hécatombe. Et aujourd'hui, on s'en approche un peu. Mais cela, ça concerne nos dirigeants. Je pense sincèrement que l'on n'est pas sans reproche dans cette rébellion. Au contraire, ne sommes-nous pas, en tant que chrétiens, en constante lutte contre notre propre rébellion? Déjà, il est dur de nous désolidariser des nations qui se rebellent. Bien que l'accent soit mis sur les rois, nous faisons partie des nations et des peuples, qu'on le veuille ou non. Par exemple, dans nos pays démocratisés et mondialisés, on vote, on achète, on jette. Nous avons une influence sur ce monde, une influence sur la direction que prend nos nations. En commettant le péché, c'est contre Dieu que l'on se rebelle. Peu importe l'échelle, et je pense que dans notre monde, il est quasiment impossible de ne pas prendre part à cette grande rébellion contre les nations, contre Dieu, malheureusement. On peut faire des efforts, mais si l'on veut vivre dans ce monde, il est très dur de ne pas prendre part. Il suffit de juste voir nos téléphones, qui nous paraissent indispensables, avec des métaux rares, des composants qui viennent des mines d'Amérique du Sud, où les droits humains ne sont pas respectés. Je pense qu'on peut toujours faire des efforts. Ça témoigne de l'amour qu'on a pour Dieu et pour sa création. Dieu, il nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Et de ces commandements, il en découle, le meilleur moyen de combattre notre rébellion. Aimer Dieu, c'est-à-dire aimer sa création, c'est se battre pour qu'on ne la détruise pas. Aimer son prochain, c'est se battre pour que chaque humain puisse vivre une vie décente. Combattre cette rébellion, c'est aller à contresens de ce que la société voudrait, c'est-à-dire l'individualisme, la consommation et la destruction. Au vu de la tournure... il faut que j'arrête d'enlever mon doigt, sinon je ne peux pas. Au vu de la tournure que prend le monde, je ne pense pas qu'il faille mettre trop d'espoir à ce que l'homme s'en sorte par lui-même. Ce que nous dit le psaume, c'est que la terre va appartenir au roi, ou un que Dieu a choisi. Ce n'est pas un parti politique qui va nous sauver. Ce n'est pas les efforts de toute l'humanité, mais bien Dieu. Dieu dit à celui qui l'a choisi, « Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre et le monde jusqu'en ses confins lointains sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras comme des vases d'argile, tu les briseras. » Des fois, on a du mal à réaliser, mais Dieu domine ce monde. Dieu domine le monde. On a du mal à imaginer Dieu, c'est normal, c'est impossible. Nous avons conscience qu'il est très grand, mais est-ce qu'on a conscience qu'il est plus grand que tous nos soucis, que toutes les rébellions ? Il dit qu'il rit face à notre rébellion, il se moque de notre rébellion parce que ce n'est rien comparé à sa puissance. Petite anecdote personnelle, un jour, dans mes réflexions, j'ai voulu savoir qu'est-ce que c'est que cette notion de grand. Et pour ça, j'ai regardé des montagnes qui me paraissaient déjà très grandes. Et pour ceux qui ont fait de la haute montagne ou des choses comme ça, il y a un phénomène qui pour moi, arrive fréquemment, c'est que on a l'impression qu'on est bientôt arrivé, que le sommet est juste là, et 3 heures après, on y est encore. Montre que même ces distances-là, même cette grandeur-là, on a du mal à l'imaginer. Alors, la grandeur de Dieu, j'ai arrêté d'essayer. Moi, en tout cas, j'ai du mal à me représenter Dieu, et j'ai souvent du mal à réaliser qu'il est plus grand que tous mes problèmes. Dieu est plus grand que les guerres, il est plus grand que les bombes nucléaires, il est plus grand que le réchauffement climatique, et pour gouverner la terre, il a choisi un roi qui va gouverner le monde, et étant Dieu, il ne peut pas se tromper sur quel roi il a choisi. Mais du coup, qui est ce roi oint par Dieu ? Mais qui est ce roi appelé fils de Dieu dans le psaume ? À qui il promet de régner sur toute la terre ? La plupart de vous l'auront deviné, ce psaume est dit messianique, car le roi qui est ici présenté est en fait pour nous Jésus. Après, on peut quand même interpréter une certaine violence dans la manière où Jésus rétablira le monde. Dominer avec un sceptre de fer, briser comme des vases d'argile. Dans ce passage, on constate avec quelle ferveur Jésus va dominer le monde. Cela peut paraître choquant. D'habitude, on a une certaine habitude des fois à voir un peu Jésus comme un hippie cool qui n'est que amour. Mais il faut comprendre qu'il est tellement amour qu'il a le mal en horreur. Il est tellement amour qu'il veut faire justice. Si cette violence nous choque, c'est peut-être qu'on sous-estime le prix à payer pour notre rébellion. On sous-estime à quel point nous sommes égarés et avec quelle force il veut nous ramener. Alors, le conseil que nous donne ce psaume, et c'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligent. Vous qui gouvernez le monde, laissez-vous avertir dans la crainte. Servez l'Éternel, et tout en tremblant, exultez de joie. Au Fils, rendez votre hommage pour éviter qu'il ne s'hérite et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. Cette notion de craindre Dieu. C.S. Lewis, qui est un apologète, un théologien, mais aussi celui qui a écrit le Narnia, le livre, Il écrit dans le tome 2, donc le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. C'est le premier film aussi, pour ceux qui ont vu. La scène où les enfants rencontrent Aslan parle un peu de ses sentiments. Pour le contexte, C.S. Lewis, c'est un... il est auteur de nombreux ouvrages. Là où je vais vous lire l'extrait, pour un contexte de l'histoire. Alors, c'est reste une image, hein, mais je la trouve plutôt bien. C'est des enfants qui sont dans un monde. Ils ouvrent une armoire, ils rentrent dans un monde, et dedans, il y a une sorcière blanche qui veut régner et tuer les enfants pour éviter qu'une prophétie se réalise. Pour fuir, on les amène vers un grand lion au grand pouvoir nommé Aslan. Je vous cache rien, Aslan, c'est une figure imagée de Jésus. On le voit plus tard dans le texte. Et le passage qu'on va lire est la rencontre d'Aslan avec les enfants. Pour en revenir à Aslan, les castors et les enfants ne surent ni quoi faire ni quoi dire lorsqu'ils le virent. Les personnes qui n'ont jamais été à Narnia ne pensent pas qu'une chose puisse être bonne et terrible à la fois. Si les enfants n'avaient jamais eu pareille pensée, ils en furent guéris à l'instant. Car lorsqu'ils essayèrent de regarder le visage d'Aslan, ils ne firent qu'entrevoir l'éclat de sa crinière aux grands yeux d'or, aux yeux majestueux, solennels et accablants. Puis ils se rendirent compte qu'ils ne pouvaient plus le regarder et qu'ils tremblaient. C.S. Lewis essaie là de nous faire ressentir cette crainte mélangée à de la terreur, du respect, mais aussi d'un profond soulagement devant notre Sauveur. La crainte est un mot qui revient très souvent dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. Mais ça veut dire quoi exactement ? Parce qu'il est aussi utilisé dans d'autres contextes, mais la crainte est définie dans les Proverbes comme le commencement de la sagesse. Craindre Dieu, c'est le mettre à sa place, réaliser sa grandeur, et que sans lui, nous sommes rien. C'est se rendre compte qu'il n'aurait même pas à lever le bout du petit doigt pour nous mettre en morceaux. C'est le mettre vraiment à sa place et ne pas le considérer comme notre égal, comme notre pote, au sens familier du terme. Dans la crainte, servez l'Éternel et tout en tremblant, exultez de joie. Mais du coup, pourquoi exulter de joie ? Ce que dit le texte, c'est la bonne nouvelle dans le dernier verset, « Heureux tous les hommes qui en lui cherchent refuge. » Car il sera sauvé. On mérite le terrible châtiment, mais ce sentiment heureux, c'est celui de notre espoir. C'est cet heureux qui fait que, tout en craignant Dieu, par conscience de ce que l'on mérite, de notre rébellion, et par conscience de sa puissance, nous n'avons pas à avoir peur. Car Jésus a pris sur lui le courroux que nous méritons pour notre rébellion. Je vous l'assure, Dieu vaincra et donnera toute puissance à son Fils. L'espérance de ceux qui ont donné leur vie à Christ et qu'il reviendra, c'est que Christ jugera la terre, il nous rendra justice, il rendra justice à tous les opprimés. Faut penser aux dirigeants corrompus, aux bandits, sans vergogne, il nous rendra justice, il rétablira la terre, il nous sauvera, et c'est en cela qu'on est heureux, car la colère de Dieu que nous méritons, Jésus l'a pris sur lui. Jésus nous pardonne, et si nous nous confions en lui, ô Fils, rendez votre hommage pour éviter qu'il ne s'hérisse et que vous périssiez, tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer, mais oui, heureux sont tous les hommes qui en lui cherchent refuge. Et Heureux, dans la version hébreu, du coup, c'est le premier mot du psaume 1 et le dernier mot du psaume 2. Et j'ai trouvé que ça nous donne vraiment le but des psaumes, les buts de ces livres d'introduction, c'est de nous dire c'est une bonne nouvelle. Heureux. Heureux comme on était au Jardin d'Éden et heureux comme on sera après. En conclusion, je vais vous poser quelques questions. Je vous invite à les méditer en votre cœur. Ai-je conscience de la grandeur de Dieu ? Si vous pensez que oui, c'est faux. Parce qu'il est plus grand que ça. En qui je cherche refuge dans ce monde qui va mal ? Et en qui je mets mon espoir ? Dans un parti politique ? Dans la science ? Dans la bonté humaine ? Dans mon église peut-être ? Une philosophie ? Ou alors, vous êtes envahi par le désespoir. Par exemple, moi, adolescent et avec mes problèmes de santé, j'avais beaucoup la tendance à voir le monde tout en noir. Et j'avais besoin de choses pour me raccrocher. Étant adolescent, j'étais très attiré par la science. Pour moi, la méthode scientifique, c'est avec ça qu'on pourrait sauver le monde. Étant jeune, j'étais aussi assez misanthrope et du coup, je n'arrivais pas à mettre ma confiance en l'homme. Mais en une méthode, je me suis dit que ça pouvait aller. Après, je me suis converti et même après m'être converti, cet espoir que j'avais en science s'est un peu évaporé quand je suis allé à l'université. Ça a été un peu une désillusion de ce que c'est vraiment en pratique, la science. Et là encore aujourd'hui, je me bats parce que c'est très dur de mettre ma confiance vraiment en Christ parce qu'en ce moment, je suis très vite envahi par le désespoir. Mais je vous invite à vous sonder vous-même, à vraiment être en totale honnêteté avec vous-même et vous dire en qui je mets ma confiance, en qui je mets mon espoir dans ce monde. Alors, je vais vous poser quelque chose que moi j'aime bien, alors ça se fait pas beaucoup dans ces églises, c'est le silence. Je vous propose 5 minutes de silence pour vous reconstruire, vraiment vous recentrer sur vous-même et de penser à ça. 5 minutes, ça peut paraître long. Sachez que les Quakers, qui est une autre assemblée des églises, fait ça pendant 2 heures. 1h30, je crois. Enfin, bref. Et voilà. Du coup, je vous propose un moment de silence. Voilà. J'espère que ça a été efficace pour vous, que vous avez pu vraiment vous sonder. Et pour ceux qui ont donné leur vie à Christ, j'espère que la réponse à ces questions, toute votre vie sera Jésus.